Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir pour l'instant sur le plateau Emmanuel Combes. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Raphaël.
Professeur
bonjour
à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Face à vous, Olivier Luanti.
Bonjour
Olivier. Professeur au CNAM, auteur de « Réindustrialiser le défi d'une génération ». Et d'ici quelques minutes arrivera Karine Rouvier, PDG d'Europe Amiante et Domaine Léo. Karine qui est pour l'instant bloquée dans les bouchons. C'est les aléas du direct. Les amis, je voulais qu'on commence par l'électrification. Ce grand raout ce matin à l'Élysée, 200 entreprises de la filière électrique accueillies par le président de la République. Qui fait un peu la méthode Choose France. Hein. On a un peu de partout dans la cour de l'Élysée des objets électrifiés. Bon, moi ce que je voudrais qu'on voit ce matin ensemble, c'est si la France, où se place la France dans le concert européen de l'électrification, puisque c'est toute l'Europe qui doit s'électrifier. Olivier, vous êtes le grand spécialiste quand même de l'industrie en France. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? D'abord, est-ce qu'on est en avance, en retard ou en milieu de peloton européen en termes d'électrification des usages?
Alors, on est un petit peu mieux que la moyenne européenne.
Ah,
c'est déjà pas mal.
Ça fait du bien.
Mais on n'est pas du tout dans les leaders. Et c'est une véritable interrogation qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a pu faire, puisque notre mix énergétique, par exemple, est très proche de celui de la Suède, oui, avec du nucléaire et de l'hydroélectrique, et nous ne sommes absolument pas aux performances, au taux de couverture d'électrification qu'a la Suède, ce qui doit nous poser un certain nombre de questions sur lesquelles on va revenir, mais qui nous montre aussi qu'on a de belles marges de progrès. Très souvent, ce ne sont pas des sujets technologiques. J'insiste, ce ne sont pas des sujets technologiques. Les technologies d'électrification existent.
Sont connues.
Sont connues dans pratiquement tous les usages. Alors, il y a certains où c'est plus récent. La mobilité individuelle, c'est-à-dire la voiture électrique, c'est quelque chose, oui, qui est plus récent sur le marché. Mais notamment dans tout le champ de l'usage de l'énergie pour l'industrie ou pour le chauffage du bâtiment, les technologies sont connues. Elles ne sont pas diffusées parce qu'il y a un problème de modèle économique. Oui. Aussi simplement que ça.
Alors on va y venir, hein, sur les pompes à chaleur, c'est assez intéressant
plus ce qui se passe. Non, plus peut-être, d'abord, plus peut-être des effets d'excès d'inertie. C'est-à-dire, j'ai envie de passer à la voiture électrique. Bon, j'entends ça autour de moi, hein. Mais j'attends que tout le monde passe. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est fiable?
Ah.
Et on voit bien la courbe en S.
C'est une question d'habitus.
Ah, c'est toujours la courbe en S en économie. Hein,
peur,
vous avez,
ouais.
Et puis à un moment, vous avez le point d'inflexion qui fait que ça décolle.
Hein. Ça dépend pas du prix surtout?
C'est lié aussi au prix.
Ah,
regarde,
oui,
dans les pays nordiques, ils sont à combien de taux d'équipement en voiture électrique?
Ah bah, c'est
ils sont au-dessus de
90. Ah bah, c'est
en tout cas
un autre là.
En tout cas, il y a un sujet sur l'adoption par le français de la voiture électrique pour rejoindre Olivier en termes d'usage. Là, on est clairement en retard.
Ouais.
On est peut-être moins sur les bornes. Ah, il y a peut-être aussi cette histoire de...
Bah, il y a les infrastructures. C'est un peu ça le sujet des annonces aujourd'hui.
Bah oui,
vous avez
la poule, hein,
Lidl, Electra qui vont annoncer beaucoup, ouais, d'investissements sur les bornes.
Ouais, il faut regarder quand même un peu les segments. C'est-à-dire le consommateur, oui, peut avoir cette crainte. C'est nous tous les jours dans nos usages, avec un effet d'inertie, avec des craintes par rapport à la présence de l'infrastructure. Si on passe sur les deux autres secteurs de consommation d'énergie, qui sont le bâtiment et l'industrie, et globalement en France, c'est à peu près un tiers, hein, et ben dans ces cas-là, on est sur normalement des acteurs avec une rationalité économique. Ce frein à l'adoption devrait être moins émotionnel que dans les consommateurs que nous sommes.
Oui.
Et on voit quand même pas mal de retard. Alors, si je prends par exemple l'industrie sur le sujet de l'électrification, plus globalement sur l'efficacité énergétique, la première étape qui n'est pas finie en France, c'est celle d'avoir une forme de sobriété énergétique. Il y a plein d'usages d'énergie encore inutiles dans nos vies.
On gâche trop d'énergie.
On gâche de l'énergie encore. J'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.
La meilleure
pas.
Économie, c'est effectivement l'énergie qu'on ne consomme pas.
Ensuite, il y a une deuxième étape avant d'arriver à l'électrification, qui est celle de la récupération de la chaleur fatale. Quand vous avez un compresseur...
De la chaleur
fatale.
Fatale.
En fait, on chauffe les petits oiseaux.
La chaleur fatale.
C'est-à-dire, par exemple, vous avez un compresseur, et ben, un compresseur, ça chauffe, et vous le refroidissez avec un ventilateur qui émet cette chaleur,
oui,
supplémentaire dans l'air. Récupérer cette chaleur est un potentiel énorme. Et là, le modèle économique fonctionne en général avec un peu d'aide. C'est-à-dire que les entreprises arrivent à rentrer dans leurs abacs financières. Est-ce que le projet de faire cette récupération est,
oui,
rentable? À condition d'avoir un petit peu de ces deux œufs. Un petit peu de fond chaleur.
Oui, enfin, c'est pas ce qui manque en France.
Alors, pour l'instant, ça tient, et donc ça se fait.
Ouais.
Et puis, la troisième étape, ce sera l'électrification, et dans la plupart des cas, aujourd'hui, ou bien la recherche de substitution avec de la biomasse,
oui,
mais la biomasse sera limitée au total, et ben, dans l'électrification, aujourd'hui, le modèle économique existe rarement, en tous les cas, il n'est pas majoritaire. C'est-à-dire que ça coûte aux entreprises plus, dans un environnement concurrentiel, des entreprises n'ont pas intérêt à passer à l'électrification tout de suite.
Bon, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Hein. Le cabinet Asterès de Nicolas Bouzou, invité régulier des experts, a chiffré le coût net de l'électrification, 70 milliards d'euros à horizon 2030. 80 milliards en brut, et puis ça rapporte une grosse dizaine de milliards, grosso modo. Donc ça veut dire quoi, là? Qui va payer la facture, Emmanuel Combes?
Tout le monde va payer, et notamment les consommateurs. Et pour revenir au sommet qui se joue aujourd'hui, là, sur en faveur de l'électrification, on peut qu'être d'accord et se réjouir de tout cela. Mais on ne raconte pas toute l'histoire. Enfin, l'histoire, ce n'est pas seulement des subventions. Oui, il va y avoir de la subvention, du leasing social, et tout ça est très bien. Hein. En fait, on est vraiment dans une logique de demande. On va subventionner en fait le passage à l'électrification, ce qui on va peut-être y revenir avec Olivier, à mon avis une politique,
est-ce qu'il y a ça dans la logique industrielle que dit la littérature économique,
parce qu'il y a pas de raison de logique de filière, mais ça on va y revenir. Il y a pas de logique de filière, mais avant même d'en arriver là, moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on raconte pas toute l'histoire. Alors j'entends que le décideur politique n'est pas là pour raconter la vérité, sinon il ne serait pas élu. Enfin, la vérité vraie, c'est qu'il y a un tiers de la facture qui sera payée par vous et moi. C'est-à-dire quand vous payez votre facture d'électricité, vous payez le fameux TURP, hein, le TURP, ben oui. Ça sert
le TURP,
à financer.
C'est le prix d'acheminement de l'électricité, c'est le coût du réseau, d'entretien
réseau,
du réseau.
Tension, réseau basse tension. Et donc, à la fin, il faut quand même dire les choses. La transition sans coût, ça n'existe pas. Et je reviens un peu sur ce que disait Olivier. Pourquoi est-ce que les ménages ne basculent pas aussi? Je pense qu'il y a un problème en France de signal prix. Enfin, c'est toujours la même chose. À partir du moment où vous voulez pas donner le bon signal.
Ah bah là, on voit
vous
avec la crise au Moyen-Orient, hein.
Bah ouais, mais vous avez le sentiment que tout est question de subvention et d'aide. Je ne dis pas qu'il faut pas subventionner la transition, notamment la voiture électrique pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Je pense des aides soignantes, etc. Il va y avoir, je crois, un gros plan là-dessus. Mais attention, ça fait pas une politique industrielle. Et deux, ça donne le sentiment que, comme dirait l'autre, l'État paiera. Bah, en fait, non, l'État paiera pas. L'État paiera une partie et une autre partie sera supportée par les entreprises et enfin par vous et moi, c'est-à-dire les consommateurs. La transition, ça coûte cher. Ouais,
ça, c'est un message important. Hein. On nous a vendu la croissance verte, c'est-à-dire à la fois la capacité de décarboner notre économie et de faire de la compétitivité. Ça marche un temps sur le premier, notamment tiers que j'ai évoqué, qu'on consomme moins, on fait de la compétitivité et on fait de la décarbonation. Assez rapidement, cet exercice arrive à ses limites, et quand il faut aller plus loin sur la récupération de la chaleur fatale ou l'électrification qui est notre sujet aujourd'hui, dans ces cas-là, il y a des coûts supplémentaires. Encore une fois, avoir des ambitions environnementales, c'est mettre des contraintes sur notre système économique. Des contraintes engendrent des coûts. C'est pas qu'ils ne sont, ils sont pas illégitimes, au contraire, ils sont sans doute très légitimes, mais il faut l'assumer jusqu'au bout.
Il faut le dire.
Ouais, en même temps, la facture, elle a déjà augmenté, hein. Mais pardon, depuis la crise de 2022-2023, on a tous vu nos factures flamber. Est-ce que ça veut dire que ça va monter encore et encore? Et jusqu'où? Est-ce qu'on peut pas se projeter un petit peu?
Alors,
donner la visibilité aux Français.
Un grand sujet. À la fois, on a un prix de l'électricité qui est encore indicé sur le gaz. C'est ce qu'on avait vu de manière très très claire tous pendant la crise de l'Ukraine en 2022. Oui. Aujourd'hui, on a un deuxième phénomène. On pourrait se dire, ça va se répéter avec la crise d'Hormuz. On a un deuxième phénomène, c'est qu'on a une surcapacité électrique temporaire, intermittente, et donc on a de temps en temps des prix négatifs. Donc ça donne un système qui est totalement illisible pour les consommateurs, même les consommateurs professionnels comme des entreprises ou des gestionnaires du bâtiment. Alors j'ai poussé là-dessus une idée qui va assez loin, parce qu'elle est contre les textes européens, ce qui m'arrive pas souvent, mais de dire aujourd'hui le marché électrique européen qui nous permet de nous alimenter dans cette électricité nécessaire pour l'électrification, il est très bien sur le court terme, il fait l'équilibre, il permet de faire de la solidarité européenne comme on l'a vu quand on a eu la crise des...
On aurait eu trois semaines de blackout en 2023 si on n'avait pas eu le marché européen.
Exactement, mais il ne donne pas le signal long terme dont on a besoin pour l'électrification et pour l'investissement. Faut-il absolument que toute la production électrique en Europe aille dans ce marché? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une partie qui a une partie de marché avec toutes ses vertus, celle qu'on vient d'énoncer, et puis une partie plus régulée qui permet de mettre en place des politiques économiques, des politiques énergétiques, des politiques d'électrification? Pour l'électricité, j'avais recommandé de sortir 60 TWh de production électronucléaire du marché, c'est-à-dire 15 à 20% de la production nucléaire, exactement pour cet objectif, permettre aux entreprises de s'électrifier avec un prix régulé, visible.
Est-ce que c'est pas ce qui se passait, j'ai oublié là, je cherche la chronique, l'ARENH, est-ce que c'est pas ce qui se passait
c'est
avec l'ARENH à 45 euros
Qui avait d'autres effets collatéraux qui l'a fait sombrer, mais il y avait un peu de ça dans l'ARENH, on est un peu sur cette même logique.
Je vais revenir sur un point qu'a évoqué Olivier au début, le fait que les industriels et pas seulement les ménages hésitent à passer. Hein, il y a un coût toujours de transition, un coût fixe hein, d'ailleurs, il faut changer les équipements, etc. Je pense que parmi les facteurs, il y a non seulement le facteur coût, mais le facteur pérennité. Incertitude. On est en 2026, il y a une élection dans un an. Qu'est-ce qui vous prouve que ce dispositif lancé aujourd'hui pour Horizon 2030, hein, je crois, hein, sera pérenne? Donc, je suis à la place d'un industriel, je me dis, je suis pas sûr que ce truc est gravé dans le marbre, soit gravé dans le marbre, je préfère être attentiste. Donc, il y a aussi une rationalité économique à l'industriel de se dire, je change pas. Qu'est-ce qui vous prouve que dans un an, pardon, hein, on a quand même une échéance décisive, qu'est-ce qui prouve que tout ça ne sera pas remis en cause? Donc, il y a aussi une rationalité à être attentiste. On est sur du coût fixe, hein, c'est-à-dire qu'il faut changer parfois de technologie, tout ça n'est pas... avec un effet d'irréversibilité. Une fois que j'ai changé, je suis prisonnier. Parce que l'effet d'aubaine que j'ai eu, on m'a promis des subventions ex ante pour me permettre de changer. Une fois que j'ai changé de technologie, on m'annonce que les subventions sont terminées à la faveur, par exemple, d'un changement de président, ce qui est une évidence, en tout cas de majorité.
Oui.
Et là, je me dis, bon, mais finalement, j'aurais peut-être dû attendre. Donc, l'attentisme est aussi un comportement rationnel quand on est dans un climat quand même hautement incertain politiquement.
Oui, évidemment. Je voulais qu'on parle des filières, Olivier. Par exemple, celle de la pompe à chaleur. Moi, je me demande si on n'est pas en train de rejouer le coup des panneaux solaires avec les Chinois.
Ah bah c'est évident. Alors oui, et c'est même encore pire, parce qu'au moins sur les pompes à chaleur, on avait une forme de leadership avec deux superbes ETI.
Atlantique, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Alors qu'en 2012-2014, déjà, l'Europe était en train d'essayer de grignoter des parts auprès des Chinois,
oui.
Mais il y avait déjà une domination chinoise sur le marché. Et qu'on a laissé se renforcer jusqu'à devenir une dépendance quasiment totale. Là, sur les pompes à chaleur, on avait un pari à gagner réellement. Si on regarde les 5 paris du Green Deal, que ce soit l'hydrogène, la pompe à chaleur, l'éolienne, le panneau photovoltaïque et il m'en manque un, c'était celui sur lequel on pouvait avoir une chance d'avoir une capacité européenne de production des équipements pour notre décarbonation en ayant la souveraineté. On est en train de la laisser filer. Là, j'avoue que moi, j'ai... Alors, c'est des décisions d'entreprise hein, qui sont au capital. C'est des entreprises familiales, si on parle, par exemple, du groupe Atlantique, qui fait l'actualité.
Qui vient d'annoncer... alors, c'était le numéro 1, là, le numéro 1 français de la pompe à chaleur, je le disais, hein. 3 milliards de chiffre d'affaires quand même, hein. C'est pas une paille, qui vient d'être achetée par le groupe nippon américain Palomarim.
Ces ventes étaient quand même très dépendantes à nouveau des subventions, des aides. Hein. Et je crois que son chiffre d'affaires a chuté l'année dernière, justement parce que moins d'aides égale.
Eh ben voilà, en 2024, effectivement.
C'est un peu les limites d'une politique industrielle, parce que par la demande. Une politique industrielle, c'est une politique par le haut, c'est-à-dire une politique d'offre. Je ne crois pas qu'il y ait de grands programmes européens sur les pompes à chaleur.
Non.
Et donc, à nouveau, on va avoir la Bérézina panneau solaire. Là, on ne sera peut-être pas d'accord avec Olivier, c'est que moi, je pense qu'à partir du moment où on a perdu une bataille, alors, je ne sais pas si elle est vraiment perdue d'ailleurs. Sur les pompes à chaleur, mais en tout cas on l'a perdu sur les panneaux solaires, je pense qu'il est vain, voire risqué, de vouloir combler un retard sur les panneaux solaires. Le coût du rattrapage...
Vous dites allons-y quoi, tant pis, c'est racheté par les...
Non mais le coût du rattrapage est tel que je ne vois pas tellement comment on peut y arriver. D'ailleurs, Atlantique, je ne sais pas exactement qui est l'investisseur, je crois que c'est un investisseur nippon américain.
Oui.
J'ose espérer qu'on ne va pas retomber dans les débats à la Montebourg 2014 avec Dailymotion.
Évidemment.
Non, le ministre de l'économie a l'air d'être plus ouvert en disant on va voir quel est leur projet, notamment d'implantation en Europe. Mais attention, ne pas rejouer, une entreprise doit être à capitaux franco-français. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est...
On va nous dire que nos usines vont partir à l'étranger.
Est-ce que l'investisseur a un projet en France, avec des emplois en France et de la tech qui bénéficie à l'économie européenne? Mais attention à pas tomber dans une sorte de protectionnisme en disant la politique industrielle, c'est des entreprises françaises. Je sais pas d'ailleurs ce qu'est une entreprise française. Une entreprise, c'est une entreprise qui a un projet
français, qui a un siège social en France, qui a ses usines en France.
Pas seulement.
Et qui préserve l'emploi en France.
Pas seulement. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont très peu d'empreintes françaises. Vous prenez les leaders du CAC 40, elles ont surtout une empreinte mondiale. Ça n'empêche pas que ce sont des entreprises françaises par leur ADN.
Je pense que vous n'avez pas tout à fait le même avis. Et Jean-Marc Daniel qui vient nous rejoindre sur le plateau.
Eh bien, ça va être animé.
C'est le but du débat.
Sur le premier point, est-ce qu'il faudra absolument protéger les pompes à chaleur? La réponse, j'en sais rien. Par contre, je suis convaincu qu'il faudra décider de ce qu'on a envie de protéger et de garder sur le sol européen. Aujourd'hui, cette liste n'existe pas. Est-ce qu'il y aura les pompes à chaleur dedans où on considère que ce combat est perdu comme il l'a été sur les panneaux photovoltaïques? C'est une vraie question qu'il est indispensable de se poser. Quels sont les combats qu'on veut faire? Et on ne pourra pas tout faire. Ça, c'est absolument certain. Et même le deuxième, peut-être le deuxième élément, c'est que je suis de plus en plus convaincu que si on veut mettre la souveraineté au cœur de notre projet de société, il faut que nos entreprises aient un ancrage territorial. Ça veut dire, certes, des sites de la technologie qui est ancrée dans le territoire, français ou européen, mais il y a aussi une véritable question qu'on ne peut pas éluder sur la détention du capital. C'est un sujet qui est un peu tabou aujourd'hui, mais je pense qu'on ne pourra pas l'éviter. Et il reboucle avec le fait de notre capacité à mobiliser l'épargne des Français et des Européens pour investir dans notre outil productif plutôt que de financer des bons du Trésor américain, par exemple. Et là, on a une question un peu globale de comment est-ce qu'on finance notre économie. Mais la détention du capital, l'ancrage territorial du capital est une question inéluctable.
On a 300 milliards de capitaux européens qui partent chaque année aux États-Unis. Vous me corrigez, Jean-Marc Daniel,
je
me trompe, parce qu'il faut les rapatrier en Europe.
Que c'est pas assez qu'ils partent aux États-Unis. Je pense que tous ces capitaux doivent partir dans des endroits où il va y avoir de la croissance. Alors, en partie aux États-Unis, la croissance mondiale, elle va se faire. C'est une obsessions, c'est entre Abidjan et Mumbai que ça va se passer. Je trouve ça assez intéressant, c'est que nous sommes 25 ans après la déclaration de Serge Tchuruk. C'était au mois de juin 2001.
Sur la faiblesse. Des entreprises sans usine.
Sans usine. Et c'était assez frappant, c'est que on a fait son procès, maintenant on l'a oublié, sauf que si on fait le bilan...
Il a eu raison.
Il avait raison. Il avait parfaitement raison. Et le véritable enjeu pour... on l'a dit, Emmanuel l'a dit, c'est-à-dire une entreprise française, c'est quoi? Une entreprise européenne, c'est quoi? En revanche, les comptes extérieurs d'un pays, ça, on le sait. La balance des paiements courants, elle enregistre les entrées et les sorties, les flux de revenus et les placements d'épargne.
L'argent sonnant est trébuchant.
Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, l'Europe, c'est un des principaux endroits où il y a de l'épargne, avec l'Asie du Sud-Est, avec plutôt l'Asie Chine-Japon. Et c'est un principal endroit où il y a des vieux. Donc, quand il y a de l'épargne et il y a des vieux, le véritable enjeu, c'est de placer cette épargne dans les endroits où il y a des jeunes. Et donc, les jeunes, ils sont en Inde, ils sont en Afrique. Le véritable enjeu, c'est de regarder la BRVM plutôt que de regarder, effectivement, ce qui se passe en France.
Mais c'est de mettre la clim dans les EHPAD aussi, hein. On a peut-être besoin de pompes à chaleur en France pour rafraîchir nos EHPAD.
C'est ce que disait Lénine. Lénine disait, le socialisme, c'est les soviets plus l'électricité. Et donc, les soviets, peut-être pas, mais en tout cas, la démocratie que, normalement, aurait dû incarner les soviets, et l'électricité.
Oui, et c'était l'armée et les aides sociales, on y arrive beaucoup.
En revanche, c'est devenu l'armée et les aides sociales.
Aussi. Emmanuel Combes, puis Olivier Lantier.
Je voulais rebondir sur ce que disait Olivier, je partage son point de vue là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix. La question, c'est qui choisit.
C'est ce qu'il y a eu, il y a
qui choisit,
clair de
qui choisit.
Protéger.
Si on fait un peu d'économie politique, on s'aperçoit que les choix ne sont pas toujours des choix complètement démocratiques. Donc il y a quand même l'idée de... Et surtout, je pense que dans les critères de choix, les économistes devraient avoir leur mot à dire. Il me semble qu'un des critères de choix, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est l'écart à la frontière technologique. Quand vous êtes, complètement largué, faut arrêter le combat. Entre mettre un euro dans l'ordinateur quantique où la bataille, me semble-t-il, n'est pas jouée et on a des atouts, il faut toujours raisonner en coût d'opportunité, hein. Et un euro dans un secteur dont on sait, je suppose, le photovoltaïque, où on est complètement en retard par rapport aux Chinois, il faut accepter un moment de dire, nous avons perdu la bataille et ça n'est pas absolument, mauvais d'importer des panneaux photovoltaïques. Il faut choisir ses combats. Et moi, j'ai l'impression que, notamment en France, on aime bien le saupoudrage. La politique industrielle française, c'est on donne un peu à tout le monde et à la fin, on n'a pas fait de véritable choix.
Faire de la politique industrielle,
c'est choisir ses combats. Choisir ses combats.
C'est un peu ce que nous dit Altermans.
Moi, je pense que...
On y a un aspect, une dinguerie économique de dépenser 3 à 4 milliards de baisses de TVA dans la restauration pour avoir des master poulets en bas de chez soi qui importent des aliments de l'étranger alors qu'on devrait dépenser ces milliards sur l'électrification.
Je voudrais dire simplement, la seule chose avec laquelle je pourrais être d'accord, c'est qu'il faut choisir. Le seul élément, c'est que c'est pas l'État qui va choisir. C'est le marché qui doit choisir. Donc, si on doit choisir, c'est le marché.
Bon, on a le droit d'avoir un État stratège aussi, Olivier.
On a le droit d'avoir aussi un État stratège, même si aujourd'hui, je partage le sentiment qu'a donné Emmanuel, c'est-à-dire qu'on a affiché des priorités, on a fait beaucoup de saupoudrage. France 2030 nous en donne aussi l'illustration.
Il vaut mieux que l'État soit un bon stratège.
J'aurais à revenir. Est-ce que Serge Tchuruk a eu raison? Vous, économiste, vous dites que oui. Et je vous comprends. Parce qu'il a raison, le constat.
Hein.
En termes de création de richesse et de création d'emplois globalement, enfin, je veux dire, nos grands économistes classiques, Adam Smith, David Ricardo, avaient raison. Il n'y a pas de problème. Seulement, moi, je trouve que dans vos équations ou dans votre façon de réfléchir, vous n'intégrez pas la souveraineté qu'on mettrait mal en équation. Vous n'intégrez
les conséquences politiques de la désindustrialisation française.
Vous n'intégrez pas la cohésion sociale et territoriale. Je reviens très souvent sur le territorial. Revenons sur le social. C'est bien de créer des emplois liés à des plateformes, des Uber Eats, des Uber, etc. On a une paupérisation de la France qui nous pose un problème global. Alors que si on avait gardé de l'industrie, on aurait créé de la valeur ajoutée ou des métiers à plus grande valeur ajoutée qui permettaient de redistribuer conforme à notre modèle social. Et vous ignorez l'empreinte environnementale. On a des ambitions environnementales en Europe qui font partie de notre projet de société. Ce n'est pas en déléguant notre pollution à des pays qui n'ont pas les mêmes ambitions qu'on sera en phase avec notre conscience et qu'on va plutôt vers un chemin d'hypocrisie globale. Ces trois éléments-là, vous ne les intégrez pas. C'est vrai qu'ils s'intègrent mal dans des équations économiques, mais ils sont essentiels à un projet politique.
Oui, alors sur la souveraineté, c'est le mot à la mode et distingué pour dire protectionnisme maintenant. La souveraineté, je rappelle, on parlait de Ricardo. Ricardo disait, écoutez, si on abandonne la production de blé, on va confier effectivement l'alimentation du Royaume-Uni aux grands producteurs de blé. Qui produit du blé? On est en 1820, il dit c'est les États-Unis et la France. Quels sont les deux pays avec lesquels l'Angleterre ne pourra jamais se réconcilier? Les États-Unis et la France. Et il dit pourtant, eh bien, je suis favorable au libre-échange parce qu'ils ne mettront jamais d'accord. Le jour où les États-Unis voudront couper les exportations de blé vers nous, les Français seront là pour prendre le relais. Donc, il faut diversifier. Ouais. Juste un exemple. Voilà.
Mettre tous ses œufs dans le même panier.
Voilà, un exemple très simple. Au moment de l'affaire des masques.
Et choisir ses partenaires.
Et choisir, au moment de l'affaire des masques, il y avait deux attitudes possibles. Il y avait le discours à la française. Oui. On va créer des filières en France. Et puis, il y avait le discours à la présidence de l'Union européenne à l'époque, c'était la Croatie. Et la Croatie est allée signer un accord de libre-échange qui a été confirmé et conforté d'ailleurs il y a 6 mois de ça avec le Vietnam en disant, puisque les Chinois sont en train d'effectivement mettre des conditions qui sont insupportables à la livraison de masques, on va s'approvisionner chez vous. Et maintenant, les masques, ils viennent de Chine et du Vietnam, mais ils viennent pas de France parce que ça n'a aucun avenir de faire de la production industrielle sur certains secteurs en France.
Emmanuel.
En fait, pour moi, le bon raisonnement, donc à la fois je suis d'accord avec Olivier et pas d'accord, c'est qu'est-ce qu'on sait faire le mieux? Si c'est de l'industrie, tant mieux. Et on a des secteurs industriels, Airbus, c'est de l'industrie. Hein.
Oui, oui.
Donc là, investissement à fond. J'ai même envie de dire, il faut accélérer même notre avance.
On a des champions industriels.
Il faut accélérer notre avance, hein, puisque les Chinois, vous savez, maintenant, Comac se mettent à faire des avions long courrier.
On va y venir
tout
à l'heure.
Pour moi, le sujet, c'est pas industrie versus service. Hein. Je veux dire, les Pays-Bas, c'est un pays de service. Je crois savoir que le PIB par habitant est beaucoup plus élevé aux Pays-Bas qu'en France. La question, c'est qu'est-ce qui crée de la valeur, d'abord? Ça peut être du service ou de l'industrie. Moi, je suis agnostique. Et deux, qu'est-ce qu'on sait faire le mieux? Il y a un moment donné, quand on ne sait pas faire, il faut arrêter. Et moi, ça me fait peur en France, on pense souvent réindustrialisation. Moi, je suis plutôt favorable à la politique industrielle, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais la politique industrielle offensive pour conquérir des nouveaux avantages comparatifs. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Marc. Pour le coup, je crois que l'État stratège, c'est celui qui dit à un moment donné, il y a quand même 2-3 secteurs, on les voit venir, hein, on les sent quand même venir. Hein, l'IA, je pense que là, on l'a plus que senti venir. Hein,
oui.
La révolution quantique. Si on laisse le marché livrer à lui-même, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Alors, on fait des grands programmes européens, mais on ne fait pas les choses à moitié. On y va à fond. Mais c'est une politique de l'offre et pas une politique de subvention de la demande. C'est une politique européenne et c'est pas une politique franco-française. Et juste un tout petit mot par rapport à ce que disait Olivier sur la souveraineté. Pour moi, la souveraineté, c'est la dépendance choisie. L'indépendance, ça n'existe pas. La dépendance choisie, c'est-à-dire il faut être présent sur le bon maillon.
Il faut choisir
maillon.
Ses partenaires.
Et pas seulement les partenaires, le bon maillon. Regardez les semi-conducteurs. Personne n'en parle. Pardon, TSMC sans ASML n'existe pas. C'est la seule entreprise qui est capable de fabriquer des machines de lithographie dans le monde. Elle a une part de marché de 95%. Alors quand on me dit on est dépendant de la planète pour les livraisons de semi-conducteurs, oui, et en même temps, eux sont dépendants de nous. Donc première, c'est pas si simple. Et secondement, là je rejoins plutôt Olivier, on peut se mettre d'accord sur un minimum de souveraineté, c'est-à-dire voilà, on souhaite que X% de nos chips, de nos semi-conducteurs, soient fabriqués en Europe. C'est ce qui a été fait avec le Chips Act, hein, qui est de dire, on va passer, on va inciter les étrangers. C'est ça qui est intéressant. Et là, on est très bien loin du débat capitalisme, capitaux français. On va demander à Samsung d'investir en Europe. C'est ça, finalement. Paradoxalement, la souveraineté, c'est attirer les étrangers sur notre sol européen. Et c'est pas chercher une solution franco-française avec un actionnaire français. Moi, je crois qu'il y a des bons actionnaires qui ont un projet, il y a des mauvais actionnaires. Il y a des actionnaires qui sont de pays alliés, il y a des actionnaires de pays dont on a
plus hostile.
Plus hostile. Ouais. Mais un actionnaire français n'est pas forcément la garantie d'un bon projet.
Ça, on est bien d'accord.
On est en train de...
Mine de rien, on a un peu, on a complètement traité le dernier sujet de l'émission. Ça tombe bien parce que on est super en retard. Comment se protéger des surcapacités chinoises? Il y a un séminaire du Collège des commissaires qui va se tenir le 29 mai en fin de semaine. Et donc, on a traité la question. Ah là, non, je fais un tour rapide, très rapide, avant la coupure pub. C'est être le meilleur.
Non,
sur certains points.
Moi, je vais continuer le propos d'Emmanuel en disant oui, il y a une partie où on est en retard et sur lesquelles ça sert à rien de faire une course. Surtout que la cible est mouvante, hein. Les Chinois vont pas rester à leur niveau technologique, ils vont le faire progresser. Donc, si vous courez derrière, vous allez vous épuiser, vous allez épuiser des moyens publics. Et là, l'une des solutions qui a été évoquée dans l'accélérateur industriel européen que je critique beaucoup, mais sur cette partie-là, je trouve qu'il y a des concepts intéressants, celui du transfert de technologie.
Oui.
Vous êtes intéressé par le marché européen, vous venez très bien, vous nous faites du transfert de techno, ça peut se matérialiser par des JV 50-50 qui finiront en 49-51, les Chinois nous ont appris ça par cœur, on n'a qu'à suivre le livre de l'industrialisation de la Chine. Mais voilà, typiquement, aujourd'hui, notre actif, c'est le marché européen qui reste un marché riche. On a un retard de technologie, ne gaspillons pas de l'argent public pour faire une course qu'on ne rattrapera jamais. Faisons du transfert de technologie et un peu de protectionnisme ou de souverainisme, je ne sais pas, sur une série de biens qu'on choisit parce qu'on les qualifie comme essentiels. Et tu as raison, il ne faut pas choisir une filière. Par exemple, dire qu'on choisit la filière des semi-conducteurs n'a pas de sens. Choisissons les maillons de la chaîne sur lesquels on peut verrouiller la filière.
Nous venons de créer un formidable consensus et de rapprocher positions d'Olivier Monti. Jean-Marc sera le contributeur, mais on viendra
opposé. Mais quelle vision conservatrice réactionnaire. C'est vraiment Lénine. Soviets et l'électricité et l'État qui s'appelle.
Absolument pas.
Tu es en retour des années 90. Le monde a changé.
Je viens revenir sur...
Alors les débats reprendront après la coupure.
C'est la population.
Si Jean-Marc me laisse en placer une après la coupure publicitaire. On parlera shrinkflation, on parlera encadrement des loyers et puis on verra si on peut parler surcapacité chinoise. Ne quittez pas, à tout de suite.